Chapitre 71. Ce furent les dernières paroles que Pompée échangea avec ceux qui lui étaient chers. Puis il se fit un moment de silence solennel pendant lequel il passa du bâtiment dans la barque. Puis enfin, la barque se détacha du bâtiment et rama vers le rivage. Le bâtiment resta immobile, tous les amis de Pompée groupés autour de sa femme et de son fils et le regardant s'éloigner. Le trajet était long du bâtiment au rivage. Dans la petite barque, perdue sur l'immense lac, tout le monde gardait le silence. Ce silence pesait sur le cœur de Pompée comme celui de la mort. Il essaya de le rompre. Il regarda tous ses hommes les uns après les autres pour voir si un seul parmi eux lui parlerait le premier. Tous restèrent muets et sombres comme des statues. Enfin, son regard s'arrêta sur Septimius, qui, nous l'avons dit, l'avait, en arrivant, salué du titre d'impérator. « Mon ami, lui dit-il, me trompais-je ou ma mémoire est-elle fidèle? Il me semble que tu as fait autrefois la guerre avec moi. » Septimius répondit par un signe de tête affirmatif, mais sans accompagner ce signe d'un seul mot, sans paraître le moins du monde être sensible à ce souvenir de Pompée. Le bruit produit par la parole du fugitif s'éteignit sans écho dans tous ces cœurs d'eunuques et d'esclaves. Pompée poussa un soupir et, prenant ses tablettes où il avait écrit d'avance en grec le discours qu'il devait adresser à Ptolémée, il le relut et le corrigea. Cependant, à mesure que la barque approchait de terre, on voyait les officiers du roi se réunir sur le point du rivage où elle paraissait devoir aborder. Cette démonstration rassurait un peu Cornélie et les amis de Pompée qui demeuraient là pour voir ce qui allait arriver. Mais cet éclair d'espoir n'eut point une longue durée. La barque venait de toucher terre. Pompée se leva pour aborder et, en se levant, s'appuya sur l'épaule de Philippe, son affranchi. Mais en ce moment même, par un mouvement rapide comme la pensée, Septimius tira son épée et la lui passa au travers du corps. Voyant ce premier coup porté, Salvius et Aquila tirèrent leurs épées à leur tour. Alors Pompée, qui, malgré la blessure terrible qu'il avait reçue, était resté debout, comme si un géant de sa taille ne pouvait tomber sous un seul coup, Pompée jeta un dernier regard vers sa femme et son fils, prit sa robe des deux mains, s'en voila le visage, et sans prononcer une parole, sans faire un geste qui fût indigne de lui, poussant un simple soupir, il reçut tous les coups sans se plaindre et sans essayer de les éviter. Il était âgé de 59 ans, accompli de la veille. Il mourait donc le lendemain du jour anniversaire de sa naissance. À la vue de l'assassinat, ceux qui étaient sur le navire poussèrent des cris affreux qui retentirent jusqu'au rivage. L'enfant pleurait sans savoir pourquoi. Cornélie se tordait les bras de désespoir. Mais, quoiqu'elle insistât pour qu'on lui rendît au moins le corps de son époux, les ancres des vaisseaux furent levées, toutes les voiles mises dehors, et, grâce à un grand vent de terre, les navires s'éloignèrent comme une volée d'oiseaux de mer. Les Égyptiens, qui avaient d'abord décidé de les poursuivre, furent bientôt forcés de renoncer à leur dessein. Les navires fugitifs avaient une trop grande avance sur eux. Les assassins coupèrent la tête de Pompée pour la porter à leur roi, et lui prouver que son ordre était exécuté. Quant au corps, ils le jetèrent tout nu sur le rivage, le laissant, en cet humble état, exposé au regard des curieux, tenter de mesurer la grandeur humaine à la taille d'un cadavre sans tête. Philippe seul, l'affranchi de Pompée, demanda à ne point quitter le corps de son maître et sauta près de lui à terre. Les assassins s'éloignèrent avec la tête. Alors Philippe lava pieusement le corps dans l'eau de mer, le revêtit de sa propre tunique et ramassa sur le rivage les débris d'un bateau de pêcheurs, débris presque pourris de vétusté, mais qui suffirent cependant, dit Plutarque, à composer un bûcher à un cadavre qui n'était pas même entier. Pendant qu'il ramassait ces débris et composait ce bûcher, un vieillard s'approcha de lui. C'était un Romain déjà vieux et qui, dans sa jeunesse, avait fait ses premières armes sous Pompée, jeune aussi alors. Il savait déjà la nouvelle terrible et, s'arrêtant devant l'affranchi, « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Ô toi qui te disposes à faire les obsèques du grand Pompée. » « Hélas, répondit Philippe, Je suis un bien humble serviteur, mais un serviteur fidèle. Je suis un des affranchis de Pompée.
Soit, dit le vétéran, mais tu n'auras pas seul l'honneur de le mettre au tombeau. Souffre que, te rencontrant ici, je m'associe à toi pour ce pieux devoir.
Je n'aurai pas à me plaindre, les dieux m'en sont témoins, de mon séjour sur cette terre étrangère, puisque, après tant de malheurs, j'étais réservé à cette gloire de toucher et d'ensevelir le corps du plus grand des Romains.
Telles furent les funérailles de Pompée le Grand.
Le lendemain, un autre navire venant de Chypre longeait les côtes d'Égypte. Un homme se tenait debout sur le pont, couvert d'une armure et enveloppé d'un manteau militaire, pensif, les bras croisés et les yeux fixés sur le rivage. Il vit le feu du bûcher qui commençait à s'éteindre, et près de ce feu mourant, l'affranchi Philippe, assis et la tête dans ses mains. « Quel est, murmura-t-il avec un sentiment de profonde tristesse, celui qui est venu terminer ici sa destinée et s'y reposer de ses travaux ?» Puis, comme personne ne pouvait lui répondre, un instant après, jetant un profond soupir, « Hélas, dit-il, c'est peut-être toi, illustre Pompée. » Bientôt après, il débarqua, fut pris et mourut en prison. Seulement, bien peu s'en préoccupèrent. Son nom s'était perdu dans le nom, son infortune s'était perdue dans l'infortune de Pompée le Grand. De son côté, César, après avoir rendu la liberté à toute la Thessalie, en considération de la victoire remportée à Pharsale, s'était mis à la poursuite de Pompée. Arrivé en Asie, il avait, en faveur de Théopompe, auteur d'un traité sur la mythologie, accordé la même faveur aux Cnidiens et déchargé tous les habitants de l'Asie du tiers des impôts. Au fur et à mesure qu'il avançait, il apprenait les prodiges qui avaient précédé ou accompagné sa victoire. À Élide, l'image de la victoire, placée dans le temple de Minerve et qui regardait la déesse, c'était, le jour du combat, tournée d'elle-même vers la porte du temple. À Antioche, on avait par trois fois entendu un son de trompette avec des cris militaires, de sorte que l'on prit les armes pour monter sur les remparts. À Pergame, les tambours qui étaient dans le sanctuaire avaient battu d'eux-mêmes sans que personne les touchât. Enfin, à Thrale, on lui montra le palmier qui avait poussé dans le temple de la victoire. Il était à Cnide quand il apprit que Pompée avait relâché à Chypre. À partir de ce moment, il en augura que le vaincu se retirerait en Égypte. Alors il cingla vers Alexandrie avec une quinzaine de galères, 800 chevaux et 2 légions, l'une qu'il avait fait venir de l'armée de Calénus qui était en Achaïe et l'autre qu'il avait suivie. Ces 2 légions ne faisaient en tout que 3200 soldats. Le reste était demeuré par les chemins. Mais, si peu nombreuse que fût son armée, César, après sa victoire de Pharsale, se croyait en sûreté partout. Ce fut avec ses forces seulement qu'il entra dans le port d'Alexandrie. À peine avait-il posé le pied sur le rivage qu'il vit venir à lui une députation dont l'orateur, après lui avoir fait toutes sortes de compliments, ouvrit un pan de sa robe et fit rouler à ses pieds la tête de Pompée. À cette vue, César détourna la tête avec horreur et ne put retenir ses larmes. On lui offrit le cachet de Pompée, il le prit avec vénération. Ce cachet avait pour empreinte un lion tenant une épée. Il combla de présents tous les amis de Pompée qui, après sa mort, s'étant dispersés dans la campagne, avaient été pris par le roi d'Égypte, et il se les attacha. En outre, il écrivit à Rome que le fruit le plus doux et le plus réel de sa victoire était de sauver tous les jours quelques-uns de ses concitoyens qui avaient porté les armes contre lui.